France Inter, le 5-7 de l'été, Noël Bréham.
Oui, on n'est pas filmé aujourd'hui, Catherine Boulet, mais...
Demain peut-être.
Demain peut-être. Catherine Boulet pour votre revue de presse nationale et internationale.
Dans la presse ce matin, ces coups qu'on ne voit pas venir. Avec la cloche de Wall Street hier à New York et puis tout à coup... Plus rien. Pendant 4 heures, le New York Stock Exchange en rade, c'est à lire dans les échos. Mais peu après, c'est la compagnie aérienne United Airlines qui doit clouer ses avions au sol. La rumeur d'une cyberattaque prend de l'ampleur. Puis c'est le Wall Street Journal qui, à son tour, suspend son site internet. Coïncidence suffisamment troublante pour mettre le FBI sur le coup. En fait, selon les informaticiens du Wall Street, les ordinateurs auraient simplement été en surchauffe, trop sollicités. Pas de panique sur les marchés.
Une autre surprise en revanche hier sur les marchés asiatiques, le krach chinois.
Plus de 3000 milliards de dollars virtuellement partis en fumée. Krach chinois, la vraie menace, titre l'opinion aujourd'hui. Moins 30% en un mois, la bourse de Shanghai, explosion de la bulle financière. Le syndrome chinois est en hall du Wall Street Journal, de nouveau également, avec ce trader, la tête en arrière, les mains cachant ses yeux. La faute à qui ? À l'État chinois, explique Guillaume Maujean dans les échos. Résultat, maintenant, c'est un désastre pour les particuliers. Les autorités ont tout fait pour pousser le maximum de Chinois vers les marchés, en endormant la méfiance des petits porteurs. Et ça a très bien fonctionné. Les apprentis boursicoteurs se sont donc multipliés. Ils sont 90 millions, plus nombreux que les membres du Parti communiste, et maintenant pris au piège du casino boursier. Tout ça est logique. Pourtant, s'exclame Yu Xiaoyong, un jeune employé d'IBM cité par les pages saumon du Figaro. Notre croissance est en baisse. Comment voulez-vous que la bourse monte indéfiniment ? Alors évidemment, l'État a réagi, précise le China Daily, injectant des liquidités. Mais en réalité, voilà Pékin impuissant face au krach. L'heure est maintenant à la crise de confiance, précise le Wall Street Journal. Le pouvoir qui a construit depuis les années 80 sa légitimité sur sa seule capacité à enrichir les classes moyennes se doit de défendre sa réputation, explique Yann Rousseau dans les échos. Pour le moment, les réseaux sociaux ne font pas état de mouvements de colère des petits porteurs, mais l'image d'infaillibilité du parti pourrait bien se fendiller. Alors le risque maintenant, c'est la tache d'huile, la contagion, d'autres marchés asiatiques sont touchés. Shanghai, Shenzhen, Tokyo, Taïwan, Séoul, toutes ont clôturé en baisse hier. Encore une raison de refroidir les ardeurs des investisseurs étrangers échaudés par l'atterrissage du PIB chinois.
Retour en France, Catherine Boulet à 6h46 sur France Inter, où cette fois c'est Marine Le Pen qui accuse le coup, un coup qu'elle n'a pas non plus vu venir.
Oui, coup de théâtre, Jean-Marie Le Pen a obtenu ce qu'il voulait mercredi de la justice. La consultation militante du FN demain 10 juillet devait supprimer la fonction de président d'honneur. Eh bien, cette consultation est annulée. Marine Le Pen l'avait pourtant promis. La mort politique de son père, c'était pour demain, écrit le Figaro. Sauf qu'on ne tue pas si facilement le père lorsqu'il s'appelle Jean-Marie Le Pen, corrige Cécile Cornudet dans les échos. La fille pensait avoir affaire à un petit gamin capricieux. Le Pen père est en fait un redoutable manœuvrier qui connaît par cœur, pour les avoir conçus, les statuts du parti, les statuts du commandeur, comme le titre Libé. Et il exploitera chacun de leurs recoins contre celle qui a osé le mettre dehors. Alors, comment s'y est-il pris cette fois-ci ? Eh bien, le 4 mai, il avait refusé de se rendre au bureau exécutif décidant du vote militant. Et c'est ce vice de forme qui lui a permis de faire annuler le processus. Le gamin est un guerrier, conclut Cécile Cornudet, qui se paye en plus le luxe d'appeler à l'union de la famille.
Des familles désunies, c'est le lot d'un des pays les plus fermés au monde, direction l'Érythrée.
L'Érythrée ou la Corée du Nord de l'Afrique, un des États les plus paranoïaques et les plus autoritaires. La Croix rapporte ce matin le travail des enquêteurs de l'ONU pour comprendre, sans s'y rendre, ce qui s'y passe. 550 interviews confidentielles auprès de réfugiés à Djibouti, en Italie, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Des enquêteurs eux-mêmes victimes de menaces et d'intimidations, c'est à lire dans la Croix. Et cette tragédie humanitaire d'aujourd'hui nous amène à celle d'hier en Bosnie-Herzégovine, il y a 20 ans, le 11 juillet. Srebrenica nous rappelle la libre Belgique. L'enclave bosniaque tombait aux mains de Mladic. 8000 hommes et adolescents exécutés par les forces serbes. Les commémorations auront lieu ce samedi et aujourd'hui, Serbes et Bosniaques vivent plutôt bien côte à côte. Le problème, ce serait plutôt le manque d'habitants pour le commerce, raconte le journal. Et pour Libération, Laurent Gélin a lui aussi fait le voyage. Il en rapporte ce témoignage de Gérard, un ancien soldat devenu guide touristique. Personne n'a rien gagné dans cette guerre, ni les Bosniaques, ni les Croates, ni les Serbes. On s'est battu pourquoi ? Si j'avais su ce qui se passerait après la guerre, je serais parti en Australie. Et que ce soit dans Politica, Blitz, Danas ou Borba, pas un mot de Srebrenica dans la presse serbe ce matin. En revanche, côté bosniaque, les commémorations sont en une, en photo notamment les noms alignés sur les stèles et en couverture de BH Dani ou Dnevni Avaz. Aujourd'hui, c'est 3 générations qu'on enterre, titre le journal.
Allez Catherine, on termine avec plus léger, vous m'avez trouvé une idée de chronique.
Oui, j'espère que vous pourrez en faire quelque chose. Ces gens qui arrivent tout le temps en retard en réunion et souvent les boss. Enquête pleine page du Wall Street Journal pour qui c'est un sujet très sérieux, on l'a compris. Eh bien, ces gens-là, ces gens en retard ont un impact négatif, figurez-vous, sur toute l'équipe. Les 10 minutes passées à attendre le chef feraient des dégâts plus importants qu'on ne croit. Démotivation, perte de créativité. Je vous laisse regarder. Bref, on apprend que pour arriver à l'heure, il faut quitter la réunion d'avant plus tôt. Donc, je vais y aller.
Mais personne n'arrive jamais en retard ici à Radio France.
Non, c'est aux États-Unis tout
Mais
ça.
Mais bien sûr. Merci Catherine Boulay. C'était donc votre revue de presse nationale et internationale. Il est 7h10.
Noël Bréham, le 5-7 de l'été, sur France Inter.